Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal présenté par Belinda Bosuma.
Un dialogue direct avec les parties en conflit dans l'Est de la RDC pour un cessez-le-feu inconditionnel et renforcer le mandat de la MONUSCO pour assurer la sécurisation du Nord et du Sud Kivu. C'est entre autres au point de la feuille de route adoptée par les ministres des Affaires étrangères, de l'EAC et de la SADC. Ils étaient réunis lundi à Harare au Zimbabwe. Lancement hier à Kinshasa du programme d'alphabétisation des femmes en RDC, programme lancé par la dynamique Femmes et Inclusion de la CENCO en marge de la célébration du mois de la femme. Il s'agit ici d'arriver à une plus grande inclusion des femmes pour la vie publique et démocratique, explique la coordonnatrice de ce programme. Et puis, la combolisation. Une philosophie pour remettre l'ordre dans la maison. Par cette théorie, Marie-Josée Ifoku, actrice politique et présidente du réseau Ekoki Inachoka, sensibilise la population congolaise et lance un appel à la reconquête nationale pour sauver la RDC. Marie-Josée Ifoku est l'invitée de ce journal. Avant d'aller plus loin, sachez que sur la ligne de front, les rebelles du M23 et leur soutien rwandais occupent le chef-lieu du territoire de Walikale depuis la soirée d'hier. Selon certaines sources locales, ces rebelles soutenus par le Rwanda cesseraient accaparés de cette agglomération presque sans combat. Pour ces sources, en effet, quelques crépitements des balles ont été entendus à la mi-journée autour de l'agglomération. Depuis plus de 2 jours, en effet, Walikale Centre vit sous menace de l'avancée de ces rebelles, poussant des nombreux habitants à fuir le milieu. Madame, Messieurs, bonjour. Les ministres des Affaires étrangères de la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, adoptent une feuille de route visant à restaurer la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC. C'était le lundi 17 mars à Harare, au Zimbabwe. Face à la situation sécuritaire préoccupante, marquée par l'occupation des villes de Goma et Bukavu par la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda, les ministres ont convenu d'un plan en 3 phases alliant diplomatie et intervention sécuritaire. Les détails de cette feuille de route dans ce reportage de Martial Papimukeba, rendu par Gloria Lutula.
Après avoir examiné le rapport des chefs d'état-major de l'EAC et de la SADC, les ministres ont élaboré un plan en 3 étapes. Dans la phase immédiate, qui devra durer moins de 30 jours, un dialogue direct avec les parties au conflit sera initié en vue d'un cessez-le-feu inconditionnel. Un mécanisme conjoint de vérification sera mis en place, accompagné du déploiement d'une équipe d'évaluation sécuritaire et humanitaire. Ensuite, pour la phase à moyen terme, qui s'étend de 30 à 120 jours, les ministres soulignent la nécessité de renforcer les mesures de confiance et de parvenir à un cessez-le-feu permanent. Il recommande de solliciter un renforcement du mandat de la MONUSCO pour assurer la sécurisation du Nord et du Sud Kivu, où les troupes onusiennes se heurtent à des restrictions de mouvement. Enfin, dans la phase à long terme, qui commencera au-delà de 120 jours, l'objectif sera de renforcer les forces congolaises, de rétablir l'autorité de l'État et de stabiliser les zones affectées par le conflit. La réunion a également insisté sur l'importance de fusionner les processus de Luanda et de Nairobi d'ici la fin mars 2025 afin de coordonner les efforts des résolutions du conflit. Les ministres demandent à l'Union africaine et à l'ONU d'apporter un soutien logistique et financier à ce processus.
Pendant ce temps, le président Félix-Antoine Tshisekedi s'exprime sur sa rencontre mardi avec Paul Kagame à Doha au Qatar et sur les refus des rebelles du M23 de se rendre aux négociations à Luanda le même jour. Le numéro 1 congolais le dit dans les colonnes du journal français Le Figaro que vous avez lu pour nous, grâce à Mzati.
À la question de savoir ce qu'il tire de sa rencontre avec son homologue rwandais Paul Kagame à Doha, Félix Tshisekedi répond, je le cite, « La réunion s'est déroulée dans une ambiance conviviale. Le travail avait été effectué en amont par les émissaires qatariens. J'avais rencontré l'un d'eux mi-février en marge de la conférence de Munich sur la sécurité. La suite reste à déterminer car le préalable à tout cela était le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Les discussions doivent se poursuivre pour un règlement durable. Comment expliquez-vous le refus du M23 de participer aux négociations sous médiation angolaise à Luanda? Félix Tshisekedi répond. Ce refus du M23 confirme aux yeux de l'opinion publique tant nationale qu'internationale que ces violents activistes sont des pantins qui attendent de recevoir des ordres pour agir. Ils sont hostiles à la paix et motivés par une soif d'enrichissement personnel qu'ils assouvissent dans chaque localité qu'ils occupent. Dans ces conditions, Je ne vois pas comment on peut construire quelque chose de solide et de véritable avec ces inféodés, déclare le président Tshisekedi. Et de poursuivre, je le cite, il valait donc mieux discuter avec leurs mentors. La recherche d'une solution définitive à la crise congolaise est guidée par les processus de dialogue de Luanda et de Nairobi, initiés par l'Union africaine, ainsi que par les organisations régionales soutenues par les Nations unies. Fin de citation.
Toujours au cours de ce même entretien accordé au journal français Le Figaro, le président Félix-Antoine Tshisekedi lance un appel à une paix durable avec le Rwanda, soulignant les tensions persistantes liées à la rébellion du M23 soutenue par Kigali. Il exprime ses craintes de nouveaux massacres si la situation n'est pas résolue rapidement. Le président congolais réitère l'importance d'un cessez-le-feu immédiat et salue les sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda, qu'il considère comme un agresseur de la RDC. Tshisekedi évoque également les réformes nécessaires au sein de l'armée congolaise pour garantir la sécurité et la stabilité du pays. Enfin, il rejette l'idée d'une balkanisation de la RDC, affirmant avoir foi en la volonté du peuple congolais de préserver l'unité du pays indivisible qu'il promet de défendre de son vivant. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU salue l'initiative de médiation de l'émir du Qatar entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour une désescalade de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. C'est ce qu'indique son porte-parole au cours du briefing de presse animé mercredi à New York. Antonio Guterres souligne que le cessez-le-feu convenu lors du sommet conjoint EAC-SADC du 8 février doit être respecté. Par ailleurs, les Nations Unies soutiennent l'accord pour la poursuite des discussions comme envisagé dans le cadre des processus de Luanda-Nairobi. Le secrétaire général de l'ONU rappelle également l'importance de la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Toutefois, la MONUSCO continue de suivre la situation de près et reste pleinement engagée à soutenir les efforts de paix et de stabilité dans la région, affirme le secrétaire général, tout en soulignant les efforts de l'ONU pour une assistance humanitaire aux personnes affectées par les combats en cours, notamment dans l'est du pays. Pendant ce temps, les membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO et de l'Église du Christ au Congo ECC ont été reçus par le président français Emmanuel Macron hier à l'Élysée en France. D'après Mgr Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations que les évêques mènent auprès des acteurs sociopolitiques nationaux et internationaux sur le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Les appelle à cette occasion le M23 AFC à ne plus boycotter les négociations directes avec le gouvernement initiées par l'Angola en vue d'une paix durable. Mgr Donatien Cholet, joint par Grâce Hamzati.
La France n'est pas n'importe quel pays dans le cadre des Nations Unies et de la diplomatie internationale. Voilà pourquoi nous avons pensé à expliquer et à demander le soutien du président Macron. En tout cas, il nous a écoutés attentivement, il a partagé nos analyses, il est d'accord avec nous par rapport aux perspectives présentées dans les guides du pacte social et il promet son soutien dans la mesure du possible. Je crois que le plus urgent, c'est qu'on arrête le combat et qu'on s'engage dans la dynamique. Et pour arrêter le combat, nous avons besoin de soutien de plusieurs acteurs, dont le président Macron. Avec ce qui se passe, on a vu déjà en Angola, au Qatar, il y a quelque chose qui bouge dans l'esprit du pacte que nous prêchons. D'ailleurs, c'est l'occasion pour nous de lancer l'appel à nos compatriotes de M23 et AFC de ne pas rester dans cette posture-là. Donc, ce n'est pas un fiasco. Ils se sont exprimés de cette façon-là pour des raisons qui sont les leurs, mais la dynamique peut bien continuer. C'est notre vœu.
J'ai reçu une délégation des églises congolaises engagées pour la paix en RDC. J'appuie pleinement leur initiative, affirme de son côté Emmanuel Macron, pour dépasser la crise actuelle à l'est du pays et permettre le rétablissement de la souveraineté congolaise. La France soutient le dialogue, ajoute-t-il. Selon le chef d'État français, la rencontre entre les présidents Tshisekedi et Kagame, organisée par l'émir du Qatar à Doha, et tous les efforts régionaux vont dans ce sens, ils doivent se poursuivre. Dans le même registre, notez que la situation sécuritaire dans l'est de la RDC était au cœur de l'échange entre l'ancien président congolais Joseph Kabila et l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. C'était mardi à Johannesburg, en Afrique du Sud. À l'issue de cette audience, Joseph Kabila a répondu à quelques questions de la presse. Il a notamment insisté sur le retrait des troupes étrangères de la RDC comme condition essentielle à la résolution de cette crise et appelle à un dialogue sincère entre Congolais. On écoute Joseph Kabila dans cet extrait proposé par Pauli Muzalia.
La solution que nous avons adoptée en 2002-2003, parce qu'à l'époque nous devons également faire face au même type de situation, à savoir une multitude de forces armées, divers groupes armés. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est ce qu'il y a des mercenaires qui ont été recrutés par le gouvernement. À l'époque, nous avons demandé à chacune de ces armées étrangères de partir, et c'est ce qui, à mon avis, directement ou indirectement, a facilité le processus de paix qui a démarré immédiatement après. Mais est-ce la même solution que nous pouvons appliquer à la situation actuelle? Je pense qu'en partie, oui. On peut appliquer la même solution, mais en considérant que le problème est beaucoup plus profond que ce que tout le monde pense. Il faut tenir compte des dynamiques internes du Congo et laisser de côté ces jeux qui consistent à blâmer les autres pour ce qui se passe dans notre pays. À un moment donné, nous devons nous demander si ce n'est pas nous le problème, ou alors notre part des responsabilités et comment les résoudre en tant que Congolais.
Us, the problem, our problem, and how do we solve it as Congolese?
Autre nouvelle, je vous l'ai dit dans les titres, la dynamique femmes et inclusion de la Conférence épiscopale nationale du Congo lance le programme d'alphabétisation des femmes en RDC. C'est en marge de la célébration du mois de la femme. Elle a organisé hier au centre interdiocésain de Kinshasa un panel de réflexion à ce sujet. Cet événement a rassemblé diverses femmes autour des thématiques liées à la paix, à l'inclusion et à la lutte contre les inégalités en RDC. La religieuse Nathalie Kangage, secrétaire adjointe de la commission Justice et Paix et coordonnatrice de ce programme, dénonce ici les inégalités persistantes subies par les femmes. Elle est au micro de Jeff Ngoy.
La dynamique femmes et inclusion de la commission épiscopale justice et paix est en train de mettre en œuvre un projet en partenariat avec Caritas Canada et nous sommes en phase de pouvoir lancer le programme d'alphabétisation pour les femmes dans notre pays. Nous avons presque 30% des personnes analphabètes dans ce pays et la majorité ce sont des femmes. Et donc nous, on ne peut pas prétendre répondre vraiment pour l'ensemble de toutes les femmes et se dire qu'on va résoudre les problèmes de toutes les femmes, mais nous allons quand même atteindre un certain nombre de femmes avec ces programmes d'alphabétisation. Comme vous le savez, ce programme est en train d'être exécuté seulement dans les chefs-lieux des 26 provinces. C'est vraiment un nombre très réduit que nous aurons, mais c'est un pas que nous aimerions faire parce que le but ou l'objectif de ces programmes, c'est d'arriver à une plus grande inclusion des femmes pour la vie publique et démocratique.
Dans l'actualité aussi, la société civile du Sankuru dénonce le détournement présumé de 45 000 dollars américains par un groupe d'élus nationaux originaires de cette province. Selon elle, cette somme remise par le gouvernement était destinée à financer le recrutement volontaire des jeunes du Sankuru dans l'armée. Elle demande qu'une enquête soit diligentée pour faire toute la lumière sur la destination finale de cet argent. Jean-Paul Ndjadi, président de la société civile du Sankuru, joint par Pele Kipela Mondo.
En effet, dans le cadre d'une initiative du ministère de la Défense et anciens combattants de mobilisation à l'enrôlement des jeunes sankurois au sein des FARDC pour faire face à l'agression de notre pays, quelques députés nationaux et un sénateur ont reçu du gouvernement central une somme de 50 000 dollars américains comme contribution au dit recrutement. Ces montants devraient être remis au gouverneur de la province en tournée de sensibilisation pour l'enrôlement de jeunes à l'armée et des collectes de fonds pour l'entretien de recrues. Mais au lieu de servir cet objectif, 9 dixièmes de cette somme étaient dissipés et partagés par ces élus. Des sources dignes de foi renseignent que seulement 5 000 dollars américains étaient effectivement affectés à ces projets. Les intéressés auraient affirmé avoir utilisé le reste pour organiser l'accueil du vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant, qui a passé 2 heures seulement à l'escale de Lodja en route vers Mujimai.
Des allégations de détournement mensongères, réagit de son côté le député Daniel Asselo, qui avait conduit la délégation de ses élus. Joint par notre consoeur Top Congo, ce dernier affirme que l'argent reçu a été dépensé correctement et que ses élus n'avaient pas d'argent à donner à qui que ce soit.
Actualité internationale.
Les États-Unis envisagent des nouvelles restrictions de voyage contre les ressortissants de 22 pays africains. Selon le quotidien américain The New York Times, l'administration Trump entend mettre en place des restrictions d'entrée sur le territoire américain pour les ressortissants de 43 pays. Parmi eux, 22 se trouvent en Afrique. La liste en cours de préparation comprendrait différentes catégories. Pour éviter d'y figurer, la plupart des pays concernés devraient avoir la possibilité de renforcer leur sécurité et leur processus de vérification des voyageurs.
L'invité.
La combolisation, une philosophie pour remettre l'ordre dans la maison. C'est par cette théorie que Marie-Josée Ifoku, actrice politique et présidente du réseau Ekoki Inachoka, sensibilise la population à prendre conscience de la situation que traverse le pays. Elle lance également un appel à la reconquête nationale pour sauver la RDC. Marie-Josée Ifoku est avec Étienne Lissumbu.
Marie-Josée Ifoku, bonjour.
Bonjour.
Femme politique et leader de la société civile, vous lancez un appel à la reconquête de l'unité nationale. Quelles sont les pistes que vous préconisez au prix de cette unité?
Tout le monde parle de la cohésion nationale, tout le monde parle de l'unité. Tout à l'heure, on a parlé encore de solidarité. Le peuple congolais, pour moi, n'a pas de problème. Le peuple congolais est prêt. Le peuple congolais veut un changement. Et lorsque nous parlons d'unité, ce mot doit être lancé à partir de la tête, à partir de ceux qui sont responsables dans les institutions. C'est eux qui doivent créer cette ambiance-là d'unité. C'est eux qui doivent créer cette envie-là que nous soyons unis une fois de plus, parce que nous le savons tous que la division que nous connaissons aujourd'hui au sein de la population congolaise vient encore de la classe politique. Donc quand je parle d'abord de la tête, je parle des institutions et je parle aussi des leaders politiques, je parle de l'Église, je parle de la société civile, de tous ces grands leaders, de toutes ces élites, c'est à eux de lancer cette unité-là. Parce que le peuple n'a pas un problème, mais le peuple se trouve dans une situation, ils sont dans un camp, celui-là est de Paul, celui-là est de Pierre, ils sont dans cet état d'esprit-là. Alors si Paul et Pierre s'entendent, si les autorités comprennent que nous sommes dans une période où l'on doit se serrer la main, je pense que les choses peuvent être différentes. Donc moi j'attends cela de la part des leaders, et en partant d'abord de la politique, donc du président de la République, du gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Sénat. Ce sont eux d'abord qui doivent lancer ce concept pour que tout le monde puisse se mettre ensemble. Donc que ça ne demeure pas au niveau d'un discours, mais que ce soit des faits.
Quand on parle de Marie-Josée Ifoku, on parle de votre philosophie des combolisations, c'est-à-dire remettre l'ordre dans la maison. Ce que vous dites dans la combolisation, quelles sont les pistes de solutions que vous préconisez dans ça?
Les pistes de solutions, enfin dans cette situation dans laquelle on se trouve, c'est vraiment la combolisation qui doit aider à cela. La rupture du système de prédation. Nous sommes dans un système de prédation qui a vu le jour depuis que nous sommes nés et indépendants du Congo. En passant par notre indépendance en 1960, nous sommes dans cet état d'esprit de prédation. Et c'est ainsi que nous disons que travaillons d'abord sur l'homme. Travaillons sur le Congolais qui a été abusé depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. Le peuple congolais ne s'est jamais retrouvé. Jusqu'à aujourd'hui, le peuple congolais ne se sent pas pris en charge. Donc commençons par l'éduquer, à le conscientiser, à lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Parce que c'est comme s'il est le dindon de la farce. Donc la combolisation, pour aller à quelque chose de neuf, il faut un processus. Donc ce processus-là, pour nous, c'est la combolisation. Donc,
alors, vous, en tant que femme, avez-vous un message à adresser aux femmes qui sont violées, qui se déplacent, les jeunes filles qui sont massacrées à l'est du pays?
C'est difficile de leur donner de l'espoir aujourd'hui. Mais je vais leur dire que sans vie, sans espoir, il n'y a pas de vie. Donc je leur demande de s'agripper à cette vie-là, cette vie qui est horrible, cette vie qui est difficile, cette vie qui n'a plus de mots. Je ne sais pas, moi, c'est horrible ce que vous êtes en train de traverser, mais je vous dis de tenir bon. Nous ne pouvons pas lâcher. Nous allons continuer à vous soutenir. Et nous sommes en train de conscientiser les mamans pour qu'elles comprennent que nous ne pouvons pas continuer à avoir une vie normale. Nous devons tous mettre la main à la pâte. Nous devons dénoncer. D'ailleurs, j'ai écrit un courrier aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous le laisser comme ça. J'ai la copie à la présidente de l'Union européenne. C'est une femme qui est à la tête de l'Union européenne. Oui. Et ma lettre, je l'ai lui adressée pour demander qu'ils puissent rompre ce contrat avec le Rwanda. Parce qu'ils ont donné un mandat officiel au Rwanda de nous massacrer, de nous tuer, de nous exterminer, de violer les femmes.
alors que eux sont là pour nous appuyer, ils sont là pour parler des droits fondamentaux de l'être humain. Mais comment peuvent-ils faire une chose pareille? Et moi, j'ai préparé ce cours, enfin, je l'ai déjà fait, je vais vous le laisser, vous pourrez le lire, pour demander à cette femme-là, parce que c'est une femme, qu'elle comprenne les atrocités que nos sœurs sont en train de vivre depuis 30 ans. Et aujourd'hui, on n'est plus capable de supporter cela. Et je pense que ce sont des sœurs comme nous. Nous avons droit à la vie. Nos sœurs ont droit à la vie. Il va falloir les conscientiser, qu'elles comprennent que elles peuvent redonner espoir aussi à nos sœurs. Nous, nous le faisons, mais le monde entier doit le faire aussi. Donc voilà, notre courrier, je vais vous le déposer de manière à ce que ça soit publié pour tous et que toutes les femmes qui nous suivent, d'abord en partant par nous-mêmes, en commençant par nous-mêmes, que nous puissions faire la même chose, dénoncer chaque jour, dénoncer jusqu'à ce qu'ils annulent ce contrat. Alors là, nous croirons que la résolution qui avait été prise en vaut la peine et ça va permettre à nos populations qui sont à l'est du pays de pouvoir espérer effectivement que les choses vont changer.
Marie-Josée Foucault, Radio Capi vous dit merci.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.